L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Rédacteur en chef du service France au Point, Jérôme Cordelier, vous avez beaucoup travaillé sur la résistance et particulièrement sur ces chrétiens résistants qui souvent sont rentrés dans l'anonymat, la libération. Chez Calman Lévy, vous publiez « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe ». Alors voilà un titre qui impressionne, alors que l'ouvre se lit passionnément, je dirais, comme un roman. Jérôme Cordelier, que voulez-vous raconter? Que voulez-vous démontrer?
Bonjour.
Bonjour.
Merci
Jean-François Ron est avec nous, il a plein de questions aussi.
Merci. C'est toujours un plaisir de venir sur Radio Notre-Dame. Écoutez, je veux raconter surtout. Je veux raconter une histoire oubliée, c'est-à-dire un pan oublié de notre histoire. C'est-à-dire, j'avais commencé par la résistance chrétienne, oui, qui est assez peu traitée. Hein. On se souvient, on a parlé à foison, à satiété du pacte entre le régime de Vichy et l'épiscopat. Et
on avait oublié
tous ces chrétiens, ces religieux, ces laïcs qui s'étaient engagés. Et d'ailleurs, maintenant, je n'ai plus peur de le dire. Hein, les chrétiens ont été les premiers à s'engager contre les nazis. Et je pense même les plus nombreux en groupe humain.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment de la libération, ils vont complètement retourner dans leur famille, leur campagne, leur boulot, leurs entreprises. Et ils ont fait le job.
Ils ont fait le job et ils vont continuer à le faire. Et c'est ça qui m'a intéressé, en fait. Je me suis dit, mais ces chrétiens qui se sont... Qu'est-ce qu'ils ont fait après la guerre, en fait?
Ouais.
Et comme... Avec ces livres, j'ai l'impression, vous savez, d'explorer l'Atlantide. C'est-à-dire que j'ai l'impression de me retrouver avec une lampe torche sur une mémoire oubliée et d'essayer d'exhumer, avec mes petits moyens, cette mémoire oubliée. Et surtout, ce nombre de personnages qui ont irrigué, on peut dire, les champs à la fois politiques, économiques, culturels et spirituels. Et donc, dans cette décennie entre 1945 et 1954, on peut dire que ceux qui ont été les fers de lance de la reconstruction de la France et après de la reconstruction de l'Europe, ce sont les chrétiens.
Et en même temps, ils insufflent un esprit. On le voit notamment dans votre passionnant chapitre sur la presse, combien l'esprit chrétien participe à la reconstruction. Et c'est un chapitre épatant qui donne la parole chrétienne publique. On assiste au mea culpa de la croix qui fut antisémite, comme on le sait, et qui supprime désormais, en 1958, le crucifix de Sahune. Les assomptionnistes changent de ton et comment?
Oui, alors ce qui est intéressant justement, c'est, vous faites bien de mettre l'accent là-dessus, c'est que en fait, pour remettre la France debout, évidemment, il fallait travailler l'économique, le matériel, donc la France était en ruine, mais il fallait travailler aussi le politique, donc ça ce sera le MRP, la démocratie chrétienne, et tous ces personnages qui sont les piliers des gouvernements de la 4e République, et ensuite il fallait aussi... avoir une reconstruction psychologique, morale, spirituelle.
Oui.
Et donc c'est là où la presse, les revues vont jouer un rôle important. Il y a une espèce de
et les chrétiens sont partout.
Une vitalité très très forte, spirituelle, culturelle, et sur le champ social aussi. Hein, c'est oui. Le début de Emmaüs, Athée des Quarts Mondes, le Secours catholique, et aussi le rôle des revues. Alors, qui sont aussi dans le droit fil. Alors, on se souvient évidemment d'Esprit, Emmanuel Mounier, enfin, tous les grands intellectuels comme Jacques Maritain, François Mauriac. Mais il y a d'autres revues, des journaux, vous l'avez dit, donc La Croix, Le Pèlerin qui continue, Le Monde. Alors, Le Monde
incroyable.
A tendance de temps en temps à l'oublier, mais Le Monde vient de cette histoire.
Absolument.
Hubert Boeuf-Méry a été formé
bien sûr.
Par les Dominicains.
Incroyable.
C'est ça qui est intéressant, en fait. Hein. C'est qu'en fait, c'est une histoire oubliée. On a oublié que le rôle de ces chrétiens dans l'après-guerre est le rôle majeur dans, à la fois dans tous les champs, comme je l'ai dit. Et je pense qu'il y a... Enfin, pardon.
Oui, oui.
Je ne veux pas faire un peu de démagogie sur Radio Notre-Dame, mais je pense qu'il n'y avait que les chrétiens qui pouvaient faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et je pense que, par exemple, des gens comme Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer. Moi, j'ai découvert la personnalité de Konrad Adenauer en faisant cette enquête. Mais un homme comme Konrad Adenauer, il réussit en à peine 5 ans, il réussit à remettre l'Allemagne debout, l'Allemagne est en ruine, l'Allemagne est un pays qui est mis au banc des nations, il arrive à le remettre dans le concert des nations, comme on dit, à faire la paix avec Israël, malgré la Shoah, et puis à faire l'Europe. 5 ans après, qui porte sur les fonts baptismaux l'Europe par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est Jean Monnet, évidemment, mais aussi trois grands chrétiens qui sont Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi. Et je pense que s'il n'y avait pas ces chrétiens engagés, qui avaient donc une idée plus haute de leur personne et plus haute même que l'intérêt collectif, il n'y aurait pas eu l'Europe.
Puisqu'on parle de l'Europe, vous parlez... C'est le désir d'Europe se fonde sur le tandem franco-allemand, mais il ne cherche pas, d'après ce que j'ai compris dans votre livre, et c'est très très joliment dit, il ne cherche pas à panser les plaies ou à mobiliser la cicatrice, comme disent les kinés, mais vraiment à poser les fondements d'une renaissance.
Oui, alors c'est ça qui est très important.
Il ne s'agit pas de dire, maintenant, on fait la paix, donc on fait un traité qui va nous coller. Non, on reprend tout à zéro en allant main dans la main pour unir nos destinées. C'est bien ça.
On va de l'avant. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, j'avais fait un long chapitre sur quelqu'un que vos auditeurs, je pense, connaissent très bien, c'est l'abbé Franz Stock.
Oui.
Et donc, je continue avec l'abbé Franz Stock, parce que Joachim Bitterlich, qui a été le grand conseiller politique de Helmut Kohl pendant 12 ans, m'a raconté comment Helmut Kohl était passionné par la figure de Franz Stock, et il en avait fait d'ailleurs un discours que j'ai retrouvé grâce à Joachim Bitterlich. Il en a fait le grand artisan de la réconciliation franco-allemande. C'est-à-dire que l'abbé Franz Stock, qui est mort assez vite après la guerre, en fait, a été un de ces planteurs de graines, si on peut dire, qui ont permis après de reconstruire l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent tous aller de l'avant. De Gaulle, Adenauer. Donc, Adenauer, il y a un processus aussi de dénazification des esprits, ce qui avait commencé, encore une fois, Franz Stock avec le séminaire des Barbelés. Et donc, ils sont tous... Voilà, donc, aussi, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas forcer l'épuration. Donc, vous savez, on sait que De Gaulle n'a pas voulu l'épuration administrative, mais j'ai été très intéressé par cette question, l'épuration épiscopale. Parce que vous
avez un chapitre là-dessus très, très éclairant. J'aurais juste dire que, effectivement, on va revenir sur ces grands personnages qui ont été absolument majeurs. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans votre livre, c'est le... Il y a une multitude de personnages beaucoup moins connus.
Ah oui, c'est ça,
vous faites renaître tout un tas, j'allais dire, de gens de la base, si on peut dire, et vous montrez comment ils se sont mobilisés avec une formidable énergie, une formidable espérance, une formidable foi. Et aussi, dans votre méthode, je souligne que vous avez beaucoup rencontré tous les témoins possibles, tous ceux qui étaient encore vivants, peut-être, ou même ceux qui avaient été très très proches de ces personnages. Et donc, votre livre est extrêmement vivant, parce qu'à chaque fois que vous venez de le raconter, par l'intermédiaire de quelqu'un qui était très très proche...
La fille du maréchal Leclerc, par exemple.
Oui, ah bah ça c'est une grande rencontre. Hein. Bénédicte de Franqueville, que j'ai rencontré par hasard quand je faisais l'enquête sur la résistance chrétienne. Enfin, par hasard. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, je l'ai rencontré.
Rien n'était hasard, tous sont des rendez-vous.
Voilà. Et donc, il y a des gens... Et c'est vrai, merci beaucoup ce que vous dites, Jean-François Roth, parce que c'est exactement ce que je veux faire. Moi, je veux faire du témoignage vivant. Je trouve que je suis journaliste, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres, d'aller à la rencontre des gens et de recueillir ce témoignage vivant. J'ai eu la chance de rencontrer, de passer de longs moments avec l'abbé Pierre, et notamment un moment que je raconte à Kstatt, on a passé 3 jours, j'ai pu l'interroger en longueur. J'ai eu la chance de rencontrer Geneviève de Gaulle-Antonioz aussi, une rencontre dont je me souviens.
Quelle femme formidable, incroyable.
Hein. Ah, les Antonioz sont formidables.
J'ai la chance d'avoir une relation privilégiée, puisqu'on a fait un livre ensemble et qu'on continue à se voir, qui est une femme absolument formidable, parce qu'en plus, elle a une simplicité, un humour que je pense, Christophe, vous apprécieriez aussi, et Jean-François aussi.
Une lumière qui dégage. Voilà. Une lumière épatante.
Voilà. Et surtout cette femme qui s'appelle Jacqueline Fleury-Marié, qui est cette grande résistante qui va avoir 100 ans le 12 décembre, que j'ai la chance d'avoir cette relation privilégiée avec elle. J'ai rencontré aussi Odile de Vasselot, vous voyez, même la petite fille de Marc Sandnier, hein, Anicette Sandnier, oui. Qui est toujours très, très vive et très porteuse de cette mémoire. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ces témoignages vivants, et ce qui m'intéresse aussi, c'est le rôle des femmes. C'est pour ça que
très important.
Qui sont très importants dans cette histoire.
Y compris à côté de l'abbé Pierre. Hein,
Lucie Coutaz. Hein, je pense que vous avez vu ce film remarquable avec Emmanuel Berco qui incarne Lucie Coutaz. Éblouissante. Et donc, effectivement, les femmes sont très importantes parce que sur les photos, on voit notamment aux politiques que des hommes, hein, puisque c'est l'apanage des hommes. Mais il faut voir toutes ces femmes qui sont très, très importantes dans cette histoire.
Alors, peut-être, oui, Jean-François, juste pour dire que justement, une femme comme Geneviève de Gaulle, Antoniose, est très symptomatique, enfin, c'est pas le mot qui convient, très exemplaire, puisqu'elle est, c'est une résistante, elle a raconté dans la traversée de la nuit son épreuve incroyable.
Magnifique ouvrage.
Après la guerre, par la rencontre de Joseph Brzezinski, elle s'engage à fond dans le mouvement Atelier Carmont, dont elle devient présidente. Elle n'est pas restée sur simplement la résistance au moment de la guerre, elle a transformer en fait son énergie dans Atelier Carmont et faisant un travail formidable.
Et vous savez ce qui est beau, c'est que je vais vous raconter une anecdote parce que je pense que ça va vous plaire. Quand j'ai livré le manuscrit donc aux c'est éditions Calman-Lévy, j'ai un copain que je vois depuis 2-3 ans, quoi. Et puis je lui dis, ah ben ça y est, j'ai donné mon livre. Il me dit, et je pensais vraiment qu'il était à des années-lumière de tout ça. Et il me dit, c'est sur quoi ton livre? Alors je lui explique le sujet. Et puis il me dit, mais tu mets qui dans ton livre? Alors je lui dis, bah, par exemple, je fais la litanie des personnages. Et je lui dis, il y a, par exemple, Joseph Brzezinski. Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit, mon père l'a très bien connu. Il me dit, parce que mon père, en fait, était dans le bidonville de Brzezinski. Et il me raconte l'histoire de ses grands-parents et de son père qui était dans ce bidonville, ses parents qui se sont connus dans ce bidonville, et comment, après, son père s'en est sorti en montant une moto-école, après une auto-école. Et après, lui, maintenant, il est directeur marketing d'un grand groupe de presse professionnelle. Son frère est capitaine des pompiers à Marseille. Enfin, vous voyez, donc c'est une belle histoire. Et d'ailleurs, je l'ai ajouté dans le livre.
Alors, Jérôme Cordelier, il faut saluer votre éditeur, Calman-Lévy, pour votre livre « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe ». Il faut saluer votre éditeur parce qu'il y a un index des noms à la fin. Et je sais que pour un éditeur, c'est très compliqué de faire un index des noms. Mais ça rend votre livre encore plus abordable. C'est-à-dire que quand on le feuillette, on va tout de suite à l'index. On voit que vous parlez de Georges Bidault, que vous parlez de Marie-Madeleine Delabre, de Robert Harcourt, etc. Et on se dit, mais il faut absolument que je rentre dans le bouquin.
Et c'est très bien, vous mettiez l'accent là-dessus. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on a fait le livre précédent, il n'y avait pas d'index.
Voilà.
Et Bertrand Deschamps, que Jean-François Rode connaît bien, puisque c'est
de la Procure,
il a été un des grands libraires de la Procure, avait fait une pastille, comme on dit, sur ce livre. Et il disait, le seul bémol que je me suis dit, c'est qu'il n'y a pas d'index. Et donc, grâce à Bertrand Deschamps, j'ai demandé aux éditions Calman-Lévy, qui tout de suite l'ont fait, qu'on fasse un index.
Alors, dans cette période, il y a deux figures qui s'imposent, c'est Yves Congar et Henri de Lubac. Ils ont respectivement 40 et 49 ans. Et on a l'impression, en fait, que chacun travaille dans son coin, les gens de presse, comme les gens de politique. Et vous décrivez moins une union des forces, mais un faisceau de personnalités où tout le monde s'y reconnaît, finalement.
Oui, alors c'est étonnant que vous, parce que vous êtes le premier à mettre l'accent, en fait, autant sur Henri de Lubac et Yves Congar, qui auront un rôle, comme on le sait, majeur au moment de Vatican II.
Oui.
Donc
on va y venir.
Je réservais pour la suite. Si
oui,
je peux
voilà,
dire.
On va y venir.
Et donc, mais ce qui est vrai, c'est que le faisceau de personnalité. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est la rencontre entre la grande histoire et la petite histoire. Donc il y a des personnages comme ça qui sont très importants. Henri de Lubac. Mis de côté par Pie XII, après remis en selle par Jean XXIII, Paul VI, et puis créé cardinal après par Jean-Paul II, et qui maintenant est le grand théologien célébré par tout le monde, puisque même les évêques, je crois, ont demandé sa béatification.
Oui, on va ouvrir un procès de béatification.
De béatification.
Pour Henri de Lubac.
Yves Congar, j'engage tout le monde, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, à lire son journal du concile, qui est absolument passionnant. Et donc, ce sont des hautes figures intellectuelles. Mais en même temps, il y a tous les anonymes, si vous voulez. Ça grouille de personnages. Et c'est ça qui est intéressant sur tous les champs. Et même, je peux vous dire que j'en ai retiré, parce que Marine Montaigu, qui est mon éditrice chez Calman-Lévy, en me disant, attends, à la lecture, là, il y a trop de monde, on s'y perd et tout. J'ai dit, mais non, mais il faut que ça grouille.
Parce que ça grouillait.
Mais oui, parce que ce sont des gens oubliés. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer, enfin, avec ma petite lampe torche, avec ma lampe frontale, si je peux dire, de les remettre dans le débat public. Quoi. C'est
mais ça vous avez la cartographie, vous nous l'a donné, la cartographie. C'est ce livre, après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe chez Calmann Lévy. Jérôme Cordelier, c'est une boussole, ce livre.
Ah ben merci, là, c'est un compliment magnifique.
Franchement, vous le disiez, on le disait peut-être au début, je crois que les nouvelles générations ont un peu oublié cette période-là, et même nous... Les plus anciens, on l'a un peu, bon, on croit connaître. En fait, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que non, on a beaucoup de choses à redécouvrir de l'énergie et de la
et
conviction.
Que nous sommes
redevables. Et oui. C'est-à-dire que il y a les passages, on peut pas reprendre tout, mais effectivement, vous montrez comment des gens ont, par exemple, surmonté le séisme absolu qui a été le nazisme et la Shoah, comment il a fallu passer à travers l'épuration, ça a été quand même assez compliqué, on parlait des évêques, peut-être y revenir, il a fallu gérer ça de façon subtile, et parce que, par exemple, pour l'épiscopat, vous racontez très bien comment ça s'est fait, et comment finalement on est passé au-delà d'une vengeance pure et simple, et que par contre, on s'est consacré, on vient d'en parler, à une réforme spirituelle, intellectuelle et spirituelle. Il fallait dénazifier les esprits. Il y a un personnage que vous citez bien, qui s'appelle Joseph Revan, qui est un...
Magnifique.
Un homme remarquable, hein,
très proche de Dachau avec Michelet. Ouais,
et qui a écrit un livre dont le titre est superbe, il a dit « Journal d'un Français qui se souvient d'avoir été allemand ». Et il a joué un rôle fondamental, précisément, dans cette... comme on dit, une dénazification.
Oui, et là, j'ai découvert, par exemple, Joseph Revan, il fait un truc qui est formidable. Je pense qu'il n'y a qu'un chrétien qui peut avoir une idée comme ça. C'est-à-dire qu'il va prendre des officiers qui sont prisonniers, des officiers allemands, et il va essayer de les réadapter, en fait, d'une certaine manière. Et donc, il va organiser, il les fait venir, hein, donc 5-6, hein, dans un séminaire, et il leur fait venir devant eux... Les grandes voix, mais tous azimuts, hein, Edmond Michelet, même Maurice Thorez, il fait venir Maurice Thorez, juste pour qu'ils discutent un petit peu comme ça, et il se dit, par percolation, ces officiers vont parler à d'autres officiers, donc il fait venir des petits groupes comme ça. Je trouve que c'est une idée, alors c'est une boîte à idées, hein, Joseph Revan, hein,
absolument, ouais.
Très consulté par Helmut Kohl, hein, après Helmut Kohl. Hein.
Alors vous mettez en avant ces héros, non de la modernité, mais du dialogue avec la modernité. Ce qui va pousser Vatican II et sa célèbre formule de scruter les temps à venir, scruter ou deviner, et on s'aperçoit que les réponses que votre livre donne, ce sont toujours des réponses humaines. C'est toujours l'engagement humain qui est une réponse, et non pas une réponse toute faite à une situation nouvelle.
C'est ça, ce qui m'intéresse, c'est que ces hommes et ces femmes, ils ont une vision de la société. Ils ont une vision du monde qui a été forgée au feu du combat, hein, donc, et de la clandestinité, dans la résistance, très tôt. Je rappelle toujours, mais il faut le rappeler, que Edmond Michelet, il entre en résistance le 17 juin 1940, donc la veille de l'appel du 18 juin, en distribuant des tracts avec le texte de Charles Péguy dans les boîtes aux lettres de Brive. Donc c'est très tôt. Et donc ils ont une vision du monde, mais surtout ce qui est important, et je pense qu'il va être important pour toutes les années à venir, c'est une vision de l'homme. Ce sont aussi des humanistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Et puis, ils ont une vision de l'homme dans l'intérêt général, dans le bien commun. C'est-à-dire dans quelque chose qui dépasse le simple individu.
Alors, il y a une figure incroyable qui reprend tout ce que vous venez de dire, c'est le maréchal Leclerc. Vous faites un portrait du maréchal Leclerc... Dans la question de la décolonisation se pose à travers cette très très belle figure, Leclerc de Haute-Cloque. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ?
Alors, moi j'aime beaucoup Leclerc. C'est-à-dire que j'ai découvert Leclerc grâce à sa fille Bénédicte de Franqueville, avec qui j'ai passé un moment chez elle, tout un week-end. C'est une femme admirable. Il faut l'inviter, hein, Bénédicte de Franqueville, parce qu'elle est d'une simplicité, puis elle a dédié sa vie à son père, quoi, à la mémoire de son père. Et moi, je trouve que Leclerc, c'est le grand héros français, en fait. C'est-à-dire que s'il était américain, mais il y aurait déjà eu 12 séries sur Netflix, un grand film en cinémascope. Enfin, je veux dire, nous, les Français, non, rien. Je veux dire, Leclerc, l'épopée de Leclerc, donc qui va à Londres en bicyclette. Il change 12 fois de bicyclette, je crois, de mémoire, pour rejoindre De Gaulle à Londres. Après le serment de Koufra, donc, on dit on ne terminera pas, vous savez, dans le désert libyen, on ne terminera pas la guerre tant que nos couleurs ne seront pas... Tant que la cathédrale ne sera pas pavoisée à Strasbourg. Et il le fera. Et après la guerre, en fait, malheureusement, il n'a pas eu le temps, puisqu'il est mort, vous vous souvenez, dans un accident d'avion en 1947. Mais il s'était très engagé, et ça m'a été confirmé par sa fille, dans la décolonisation. Et donc, c'est intéressant d'avoir un guerrier. C'est un guerrier, Leclerc, qui se met comme ça dans ce rôle de pacificateur, rôle méconnu, et avec...
Et de dialogue avec la population.
Voilà, de dialogue. Et il a cette phrase que je trouve absolument magnifique. Hein. C'est un moment fort. C'est « on ne tue pas une idée avec des balles ». Et donc ça, je trouve que ça résume, et c'est une phrase magnifique.
Dans votre sous-titre, vous indiquez les dates 1945-1954, 9 années où tout se reconstruit. Pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin jusqu'en 68, par exemple, ou au moins jusqu'au Concile Vatican II, qui arrive 20 ans après? Vous pensez... faire un troisième tome.
Eh bien, oui.
Voilà.
C'est pas tout à fait étonnant.
Donnez-moi le temps, mais il faut que je... voilà, donnez-moi le temps. Mais effectivement, oui, je m'arrête avant la guerre d'Algérie. On voit bien que la guerre d'Algérie est, est un moment de fracture.
Ouais.
À la fois pour la France, l'Algérie, mais aussi pour les chrétiens. Et donc voilà, c'est un moment... Voilà, j'espère pouvoir... effectivement, poursuivre cette histoire qui est absolument d'une richesse.
Alors, en attendant, on va vous retrouver le 17 décembre à la Procure à 15h30, le 2 décembre à Saint-François-Xavier à 11h et au Collège Saint-Jean de Passy, mais à la Procure, évidemment, le 17 décembre à 15h30. D'ailleurs, sur les tables de la Procure, Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on peut voler en ce moment?
Eh bien, on peut en tout cas acquérir de façon honnête un certain nombre de bons livres, effectivement. En particulier, je vous en signale un qui m'a beaucoup intéressé, un livre de Michel Sauquet qui s'appelle « Trésors de la spiritualité franciscaine au XXe et XXIe siècle ». Donc, c'est une anthologie. Donc, Michel Sauquet est un... Il n'est pas franciscain comme tel, mais il est de spiritualité franciscaine. Et il a, au fil des années, récolté un certain nombre de textes d'inspiration franciscaine. Et il nous fait 140...
C'est joli.
En prenant, de manière quelquefois justement un tout petit peu surprenante, en disant, là, je vois l'influence de
Saint-François, de
la référence à Saint-François. Alors, à partir du thème franciscain bien connu, respect de la création, joie franciscaine, humilité, minorité, etc. Mais ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il prend des gens qui sont vraiment franciscains, évidemment, Éloi Leclerc, Michel Hubot, Damien Voreux, etc., mais des religieux chrétiens non franciscains, mais aussi plein d'artistes. Paul Claudel, François Mauriac, Herman Hesse, Julien Green, Francis James, Joseph Delteil, Christian Bobin, Madeleine Delbrel, Olivier Messiaen, Michael Lonzal, etc. Il cite énormément de gens qui sont en fait... qui ont entendu ou qui
sont reliés par la pensée franciscaine.
Et qui redonnent un peu à leur manière, dans leur style, l'idée de Saint-François. Ça s'appelle « Trésor de la spiritualité franciscaine ». C'est de Michel Sauquet aux éditions Salvator.
Un livre Salvator.
Et puis, je vous cite aussi un petit livre sur un thème majeur. Ça s'appelle « Amitié ». Amitié, sagesse chrétienne. L'amitié, c'est évidemment une dimension très importante dans toute vie, parce qu'en fait, on la met à peu près au niveau de la famille, peut-être justement parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont fluctuantes, apparaissent peu solides, alors que, comme la famille, l'amitié, la véritable amitié, peut être justement quelque chose sur lequel on s'appuie, et c'est peut-être justement l'antidote, peut-être un des problèmes majeurs de notre époque, qui est l'individualisme, et en fait, découvrir et cultiver la matière. Alors là aussi, c'est une étude un peu sérieuse, très approfondie, où il cite tous les grands auteurs, les anciens comme les modernes. Il termine par s'enfoncer dans ça. Et Henri de Lubac, puisqu'on en parlait tout à l'heure aussi. Et à chaque fois, il essaie de mieux définir comment l'amitié est fondamentale dans la vie humaine et comment elle est fondamentale dans la relation au Christ.
Je signale qu'il y a un livre qui vient de sortir aussi chez Salvatore sur l'amitié de Patrick Tudoret, le romancier qui a écrit ce livre assez court, mais très dense. Et en effet, l'amitié qui semble quelque chose de vintage peut-être pourrait devenir très à la mode.
Il faut l'espérer. Non, mais c'est vrai, c'est une formidable antidote. Hein, ce que vous dites, Jean-François, c'est juste. Hein.
Et oui, alors comment la définir dans le monde d'aujourd'hui entre mon ami Facebook et mon véritable ami Jean-François Rode, il y a quand même une différence.
Ça vaut le coup d'y réfléchir, parce qu'effectivement, c'est très fondamental. Et là aussi, ça peut être un lieu de rencontre au-delà des convictions religieuses, par exemple. On peut rencontrer beaucoup de gens sur ce thème.
Merci à tous les deux, Jérôme Cordelier. Je rappelle votre livre « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe » chez Calman Lévy, Jean-François Rode. Merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi, alors nous irons au théâtre. Prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.